Ouais, j'ai six clap clap.
Alors je rebondis sur ce que dit Ama. Moi aussi, j'avais noté ce passage où il dit, je crois à peu près littéralement, que la division est utile pendant la paix et
Exactement.
ne sert pas durant la guerre. Très
C'est ça.
intéressant. Ça rappelle des trucs un peu actuels.
Grave. Il dit même qu'en temps de guerre, ça, les principes de division sont fallacieux. C'est ça les termes exacts. Je peux vous retrouver le passage. Voilà, c'est, j'ai retrouvé. Si l'on conquiert un État nouveau pour l'annexer à son ancien domaine, il faut en désarmer les sujets, à moins qu'ils ne soient donnés à vous de leur plein gré. Avec le temps, il faut les rendre dociles et efféminés. Le parti le plus faible se joint toujours aux forces étrangères et met le plus fort dans l'impossibilité de se défendre. Les divisions font voir la faiblesse d'un prince qui ne sont pas présentes dans un État gaillard, car les divisions sont utiles que pendant la paix, contribuant à manier plus facilement les sujets. Mais la guerre survenant montre combien ces principes étaient fallacieux. Bah, je vous faire un screen parce que j'ai un PDF de ma fiche de lecture. Je vous fais un screen de ce texte en particulier qui apparemment a retenu l'attention.
Ah, il y avait l'outre-poutre qui voulait intervenir, je crois.
Ouais, c'était pour dire bah, merci encore Voro pour cette lecture. T'as une belle diction et un super bon rythme.
Merci.
Et ouais, c'était très agréable à écouter. Et oui, ça me semble aussi évident qu'il conseille qu'un dirigeant en temps de paix a plus d'avantages à diviser son peuple.
Vous avez vu à un moment, il y avait des transitions au diapo que je trouve qui étaient géniales, avec le gladiateur et Commode. Je sais pas si vous avez fait attention.
Ouais.
Avec Gatsby, on a trouvé ça incroyable. On s'est tapé une bonne barre.
Dans le même ordre d'idée, l'idée un peu contre-intuitive en mode la division est utile pendant la paix, à un moment, t'as dit, enfin, il a dit un truc du genre un prince prudent doit se faire des ennemis, car ainsi, en les terrassant, ça lui apporte de la gloire.
Exactement, exactement. Je vais te retrouver ça. Je suis désolé, j'apporte pas trop de réponses, des gros développements. C'est juste que enfin, je me sers de la pression sociale et le fait de réciter en public pour infuser un peu mieux le texte, mais je ne suis pas prof de français, je suis pas, j'ai pas fait des grosses études, je ne pourrais pas vous disserter comme ça, je pourrais pas vous faire des grosses longueurs sur ce que je viens de vous lire. Simplement un échange voilà, qui m'apporte à moi pour consolider des connaissances et pour vous, bah, parfaire votre culture. Et c'est un échange qui apparemment a été qualitatif, d'après les dires de l'outre-poutre.
Ouais, très instructif à méditer en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent. Je crois qu'il y a l'ours qui demandait un moment si ça venait tout du même ouvrage, tout ce que tu as pu citer. Je crois que oui, c'était Le Prince.
Oui, tout vient de Le Prince de Machiavel, édition Librio. Ça fait 119 pages et en fait, je me suis amusé à faire des prises de notes sur tous les passages qui me paraissaient pertinents. Et j'ai fait un cocktail, du coup, j'ai répertorié toutes les citations qui m'ont intéressé. J'ai fait 12 pages et ça a donné ce que vous venez d'écouter. Voilà.
Ouais, très bon le PowerPoint. Si tu veux bien, on le joindra au podcast. Ça fera des heureux.
Ah oui, totalement. Je te mets ça tout de suite. Tac. Ah, c'est trop volumineux. Ah, il fait 28 mégas. Je te fais un WeTransfer ou...
28 mégas. Ah non, ça va être un peu trop lourd.
Ouais, il fait 28 mégas le PowerPoint.
On trouvera d'autres solutions.
Si ça peut, il y a une question. Si le fait de. Enfin, qu'en temps de paix, il y a une division de l'État et qu'en temps de guerre, il faut réussir à rameuter les troupes. Est-ce que ça peut s'appliquer à la Révolution française? Oui, ça s'applique à toutes les révolutions qui fonctionnent. Une révolution qui fonctionne, c'est justement réussir à rassembler les peuples pour faire tomber un pouvoir qui n'arrive plus à servir et qui attise la haine et le mépris. Parce qu'il y a deux notions qui sont importantes citées par Machiavel, ce sont le mépris et la haine, qui sont deux. De réaction du peuple qu'il faut à tout prix éviter, et sachant que la partie du peuple la plus dangereuse étant le Bellatores et non le Laboratores. Le Bellatores, je le rappelle, étant l'armée, les sujets qui sont armés. Un souverain qui attise le mépris et la haine de cette partie des trois ordres, bah il est foutu en fait. Il va juste périr, il va se faire défoncer. Les relations de couple sont particulièrement malsaines. Ah ouais, vous avez du coup, oui, parce que moi je l'avais pas, il fallait que je me concentre un peu plus, mais avec la musique, ouais, c'est passé, j'imagine que c'était incroyable.
Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont dû le lire.
Bah ouais, c'est The Référence.
Et j'ai envie de dire, ces conclusions sont à la fois et très vraies et très tristes, et en même temps presque un peu auto-réalisatrices. Ce que je veux dire, c'est que si tu prends le parti et la vision de te dire ce qu'il faut pour gouverner, c'est imposer la force, tu auras des retours dans ce sens-là, parce que tu vas tanner le cuir aux gens, et du coup, ce sera ça qui sera opérationnel auprès d'eux. Alors, si tu avais pris la position de te dire je vais les élever par, j'en sais rien, la vertu ou d'autres trucs. Ça peut marcher, mais c'est plus long, plus difficile. Et du coup, tu aurais eu aussi des retours qui te diraient « je suis sur la bonne voie ». Donc lui, j'ai l'impression que même s'il a raison, il voit qu'un seul prisme et il dit « il n'y a que lui qui vaut ». Il n'a pas tout à fait tort, mais du coup, il nourrit lui-même ce qu'il considère être une vérité.
Ouais, alors je rebondis à ce que tu as dit, parce qu'il y a quand même... tu as tiré un peu à côté, dans le sens où... Il explique que la force est nécessaire, mais qu'il faut surtout paraître, avec tout un tas de qualités, pitoyable, juste, religieux, patient, etc. C'est-à-dire qu'il faut paraître avec ces masques-là, mais que si un prince se contentait d'appliquer ses valeurs sur le terrain, il perdrait ses états. C'est-à-dire qu'il faut... il faut avoir une image de quelqu'un de doux et d'aimant, mais sur le terrain, faut appliquer la force et la cruauté. Et il n'y a que comme ça que tu vas et avoir l'acceptation du peuple, qui pour la plupart sont des gens qui vont aimer le repos, c'est ce qu'il dit texto. Il dit les gens du peuple aiment le repos. Par contre, les gens de guerre, les gens qui aiment se battre et qui aiment la castagne, et les gens qui sont dans l'armée, la police, etc., ceux-là, il faut aussi avoir une double face. Donc le côté méchant, cruel, passionné et, tu vois, et rapace, quoi. C'est là, c'est ça en fait le cœur de... C'est moi ce que j'ai retenu, si je devais résumer le prince, comment être un bon prince, ce serait comme ça. Ce serait avoir une façade aimante, douce, pitoyable et religieuse, mais quand il s'agit de régler des vrais problèmes géopolitiques et de terrorisme ou de l'armée de terre, armée de l'air et compagnie, il faut savoir être, être un rapace, quoi, un loup.
Bien sûr, mais du coup, sa considération de l'humain est d'une tristesse abyssale, même si elle peut être entendue comme vraie. En gros, il dit « Les hommes sont des chiens, vous ne pourrez pas être toujours honnête avec eux. »
Ouais, pourquoi pas. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Oui, et effectivement, Azingu, il développe sur la crainte et l'amour. Être aimé et... Enfin, non. Le plus difficile étant d'être aimé et craint, mais à choisir entre les deux, il faut être craint. Parce que ceux qui sont le plus à même de te renverser, ce sont les gens de guerre. C'est pas le peuple. Les plus dangereux pour le prince, c'est ces soldats. S'ils sont vraiment pas contents de lui, ils l'assassinent ou ils lui font un truc de ouf. L'analyse philosophique du prince mène à faire détester une personne et être le sauveur en retrait. J'ai du mal à saisir le sens de être le sauveur en retrait.
En fait, ce que ça signifie, c'est-à-dire que lorsque tu es dirigeant, tu dois pas être la personne qui est haïe. Tu dois... Alors, voilà, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure... Aimer le peuple ou paraître aimer le peuple, c'est pas la question. La question, c'était surtout que le peuple t'aime ou que le peuple ne t'aime pas. Donc il faut être aimé du peuple pour pouvoir être le garder donc en contrôle. Et donc pour être aimé du peuple, il faut être le sauveur et le laisser libre. Et comme tu disais dans l'un des premiers citations que tu disais, c'était lorsque l'on arrive et qu'on conquiert un territoire, il faut un le raser, deux habiter là-bas, et 3, lui laisser ses lois.
Waouh, quelle mémoire, je suis impressionné.
Non, parce que je connais assez bien ce passage-là.
Ok,
mais,
d'accord.
Parce que c'est une des principales conclusions qu'il faut en tirer. Et okay. Donc du coup, le fait d'être la personne qui ne prend pas les décisions les plus méchantes, c'est-à-dire de mettre en place une personne, pour un ministre, qui lui va prendre les décisions méchantes, ça va te permettre en fait au peuple de pouvoir avoir cette haine ou de rejeter toutes les fautes sur cette personne-là. Et toi, donc en tant que dirigeant, ou presque dans ce cas-là, en retrait, tu es celui qui est juste, qui va dire eh ben non, tu as fait n'importe quoi, et donc je te punis. Alors que c'est peut-être toi qui as donné les ordres.
Ah, pas mal. Ouais, transférer la haine sur les ministres. Et du coup, comme ça apaise l'image du président. Ouais, pas mal.
C'est une des conclusions philosophiques qu'on étudie sur le prince.
Stylé. Je plus sois ton intervention. Et aussi, juste rappeler sur le terme de peuple, il y a le peuple civil, laboratoires, et il y a les gens de guerre. C'est deux distinctions qui fait du peuple. Quand on dit le peuple, il y a bien les gens qui triment, les paysans, les électriciens, les maçons, etc. Et les guerriers, les flics, l'armée, le service secret, tout ça, tout ça. Alors le coup du méchant flic et le gentil flic, j'ai lu ça dans Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ça joue sur le principe d'engagement et la réciprocité, en fait. Le méchant flic, il va mettre la pression au mec, Et le gentil flic, en fait, il va faire susciter le principe de réciprocité, c'est-à-dire qu'en prenant la défense, en prenant la défense du mec qui a commis un délit et qui est coupable, comme le gentil flic va prendre sa défense, lui payer un café, et voilà, le caresser dans son sens du poil, il va susciter la réciprocité sur le coupable et donc le pousser aux aveux. Ce que je ferais, du coup, c'est possible, je sais pas, dans une semaine ou quoi, j'ai terminé Influence et Manipulation de Robert Cialdini, donc je suis aussi partant pour faire une lecture de ce merveilleux livre. Un best-seller de la psychologie. Trunk de Cartman, c'est victime, bourreau, sauveur.
C'est ça, et en gros, dans le cas d'un gentil flic et méchant flic, bah, y en a un qui se pose en tyran, l'autre en protecteur, du coup on est tenté d'aller vers le protecteur pour qu'il nous protège.
Blablabla. C'est ça. Et ouais, le coupable est la victime.
Exact.
Et j'avais lu la solution au triangle de Cartman, c'est la responsabilisation de la victime.
Oh, c'est de pas rentrer là-dedans, surtout.
Ouais, mais c'est... Enfin, c'est aberrant comme le nombre de personnes qui sont dans ce schéma-là. Et de la solution que j'avais vue à ce triangle, qui est présent chez beaucoup de foyers, beaucoup de... Enfin, voilà, beaucoup de personnes, c'est la responsabilisation de la victime de... du réseau social dans lequel il est, que ce soit un adolescent ou un mec qui se fait marcher dessus en entreprise. De faire en sorte que le triangle ou le sommet pointe vers le bas, bah, devienne une ligne droite bien horizontale où chacun est à sa place et il n'y a pas de victimisation. Le pardon, non, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de ce concept. Mettre les problèmes sur la table, exposer les ressentiments, les reproches, faire en sorte que la personne qui casse les pieds change, mais après le pardon. On n'oublie pas ce qu'on nous a fait subir. C'est un bien grand mot, le pardon.
Le pardon, c'est pas tant d'oublier, hein, c'est surtout d'accepter. C'est moins évident, parce qu'évidemment, on n'oublie jamais.
Ouais, mais c'est sûr. Moi, pour moi, je vois plus. Moi, je vois pas. Enfin, j'aime pas le fait juste d'accepter que tu t'es fait pisser dessus. Moi, ce que je vois plus dans le pardon, c'est surtout faire changer le mec qui te... Faire changer le bourreau, en fait. Parce que pardonner et le bourreau, il change pas, je trouve ça... C'est horrible, en fait. Enfin, ça n'a aucune utilité.
Ouais, c'est une manière d'être en paix avec soi-même aussi, hein, le pardon.
C'est ce que j'allais dire. C'est plutôt pour soi que tu pardonnes, généralement.
Ouf. Moi, je suis en paix avec moi-même si le bourreau a payé. Tu vois. Si le bourreau n'a pas payé... Je peux pas. Tu vois. Le bourreau paye, après il y a pardon peut-être. Mais tant que le bourreau n'a pas payé, le pardon fonctionne pas.
Ah, il y a des fois tu peux pas vraiment lui faire payer quoi.
Bah, c'est là où.
Et plutôt que de rester bloqué, bah faire un truc de pardon et dire bon ok, cette personne m'a fait du mal, tant pis, tu vois.
Ou tu vas à la salle. et tu vas à la salle pendant pendant 8 mois, 3 fois par semaine. Et voilà. Et là, tu pardonnes. Mais après que tu lui aies fait comprendre qu'il ne fallait pas recommencer, tu vois.
Mais c'est deux lignes de vie un peu opposées, hein, et finalement, Machiavel est clairement sur cet opposé, sur l'autre, quand il parle de la force, de la crainte, ou même bien de la violence utilisée. Il n'est clairement pas dans le pardon, lui, par exemple.
Ah ouais, bah, je suis totalement d'accord avec lui.
Après, c'est intéressant de noter... Ah pardon, Ashkamen, je te coupe. Tout ce qu'il décrit, est-ce qu'il l'accrédite dans sa pensée, ça vaut pour une époque où il y a des princes et des empereurs et où il y a un culte des personnes qui ont quasiment les pleins pouvoirs. Du coup, dans des démocraties actuelles, même si on a des parallèles séduisants à faire, bah, c'est plus le cas comme ça, quoi. Donc,
J'ai envie de te dire, on est dans une oligarchie, donc quelque part, c'est certes pas des monarchies où c'est 15 seuls individus, mais ça reste une toute petite minorité qui...
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que son argumentaire est d'autant plus vrai que s'il y a surtout une seule personne qui dirige, et dans ce cas-là, il faut qu'elle applique tout ce qu'elle dit. Ouais. Tout ce qu'il dit.
Certes. Mais sur une certaine échelle, je sais pas, par exemple, dans un groupe, généralement, il y a toujours un leader, tu vois. Et je pense que ça peut pas faire de mal en tant que leader d'un groupe de potes ou d'un groupe ou d'un chef d'entreprise ou je ne sais quoi, d'avoir connaissance de ses principes, en fait. Parce qu'un leader qui se contente d'être simplement aimé, il ne sera pas à l'abri de bassesse et de malice de la part de ses sujets. Voilà, c'est ça qu'il dit, les sujets.
Après, il y a le leader désigné et le leader naturel. Donc, il y en a deux, techniquement.
Ouais, c'est vrai.
Bah d'ailleurs, Machiavel met le doigt là-dessus. Hein. Il dit que ceux qui sont arrivés, entre guillemets, par le peuple, sont toujours plus respectés que ceux qui sont héréditaires.
Oui.
Et il y avait Ashkamen qui voulait parler, pardon.
Ouais, moi, je voulais juste revenir sur le fait que quand on utilise dans la langue commune Machiavel, on dit oui, c'est quelque chose de machiavélique, de calculé, de froid, de cynique. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'honnête, de factuel. C'est une étude de qu'est-ce qu'a été l'histoire par rapport aux guerres et aux gestions de cités. Et donc, en fait, ça s'est transformé parce que justement, son message a été mal interprété en disant que bah, c'était de l'opportunisme pour se faire bien voir du prince. Mais en réalité, donc, Machiavel, c'est quelqu'un qui était donc très patriote et qui avait justement cette vision de la chose, comment faire les choses de manière cadrée pour essayer de réunir les États d'Italie.
Je suis d'accord. Bah, la chaîne YouTube Le Précepteur, que j'apprécie énormément, a fait une vidéo sur Machiavel. Et bon, je vais essayer de faire deux têtes, mais je vais un peu remixer. Mais il fait bien le... comment dire ? Il souligne bien le fait que il y a un côté galvaudé dans les termes machiavéliques. C'est que pour l'inconscient collectif, c'est quelque chose, comme tu disais, HK, de cynique. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait. C'est quelque chose, voilà, de mauvais, de malicieux, de négatif, en gros. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est simplement c'est quelque chose de froid, de bien réfléchi sur la réalité de ce monde, sur la réalité et surtout le l'imprévisibilité des gens qui poussent à des réactions qui sont pas forcément bisounours, quoi. Qui demandent un cadre strict pour justement anticiper l'imprévisibilité des relations humaines. Je dois aussi mettre un point d'exclamation ou pas, Melk, quand je veux intervenir.
Bon, a priori, non. Tu fais la soirée.
D'accord.
Bon, okay. T'as beaucoup de choses à dire.
Ok, cool. Cool. Ouais, j'invite tout le monde à aller voir la vidéo du précepteur qui est vraiment un mec, une chaîne hyper qualitative sur tout un tas de concepts philosophiques.
D'ailleurs, les points d'exclamation et compagnie, c'est quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de paroles demandées. Là, typiquement, il n'y a pas beaucoup de monde qui demande la parole. Prenez-la en live, n'hésitez hein, pas, exprimez-vous si vous voulez.
Ouais. Les gens sont studieux sur l'after thinking. Disciplinés.
Attentifs à la parole de l'autre.
Oui. Y a-t-il moyen de compresser un fichier PowerPoint ?
Sinon, au pire, tu nous le coupes en deux ou trois.
Ouais, faire ça.
Cliquez sur le bouton de l'ouvrir et puis cliquez sur « Voyez, dossier compressé ».
Après, il n'y a pas tant de questions ou d'interventions. Si tu veux faire une sorte de petite conclusion pour ceux qui écouteraient le podcast, je pense que je vais bientôt arrêter.
Conclusion ?
Ou je sais pas, une ouverture sur d'autres ouvrages de Machiavel, ou un petit mot de la fin, comme tu le sens.
Trois bouquins et un conseil pour les jeunes générations.
Ah, j'ai pas assez de prétention à pouvoir donner des conseils à la jeunesse de France. Oh mon dieu. Le mot de la fin, c'est que la philosophie est une science absolument géniale et que j'inviterais à lire Descartes de la même édition de Librio. Enfin, les livres de poche que j'ai fait l'acquisition là, du prince Machiavel. Donc j'invite à aller lire Descartes, Discours de la méthode, qui a pour phrase d'introduction « Tâchez toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde. » J'expliciterai cette phrase par, en fait, au lieu d'avoir plus d'argent que un concurrent X, essayer d'être plus fort que lui, plus compétent que lui dans son domaine. Et au lieu de changer l'ordre du monde, changez vos désirs pour éviter de vous casser les dents sur un monde qui a déjà son ordre établi par tout un tas de penseurs qui ont construit la société, en fait. Donc intéressez-vous à l'ordre, comment la société a été ordonnée. Voilà. Ce serait ça le mot de la fin.